France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Joseph Darnand, un collabo à l'heure du châtiment. Le 3 octobre 1945, au terme d'un procès expéditif, la Haute Cour de justice condamne à mort Joseph Darnand, ancien secrétaire d'État et ancien chef de la milice du régime de Vichy. Héros de la Première Guerre mondiale, dont le visage fera par la suite la une de Match pour ses faits d'armes au service de la France, simple ébéniste de province, puis petit patron d'entreprise, sorte de monsieur tout le monde, il est devenu l'un des rouages les plus sinistres du gouvernement collaborationniste, à la fois décisionnaire, dévoué au maréchal Pétain et exécutant zélé du régime nazi pendant les années d'occupation. Deux carrières contradictoires, deux histoires qui, mises bout à bout, semblent absurdes. Tel est pourtant le paradoxe de la vie de Joseph Darnand. Un individu à la fois patriote, antisémite, anticommuniste, anti-bolchevique, mais aussi germanophobe, comme beaucoup d'autres. Comme l'analyse l'historien Éric Alary, dans le cas de Joseph Darnand, les illusions et la bêtise n'excusent rien. Ces errements idéologiques vont entraîner des milliers de femmes et d'hommes vers les abîmes de l'échec et de la mort. Notre invité aujourd'hui, Éric Alary, justement, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la vie des Français sous l'occupation. Son dernier livre, intitulé « Joseph Darnand, de la gloire à l'opprobre », est paru aux éditions Perrin le 12 octobre dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Dans une salle du palais de justice de Paris, le glaive de la loi va trancher. Trancher des têtes. Car pour un Darnand qu'on juge, il ne peut y avoir d'autre sentence. Devant le président Montgibault, devant la cour, devant les jurés, Darnand pourra verser des larmes. Elles n'effaceront pas le sang des maquisards assassinés, des résistants torturés, des patriotes fusillés, inscrits à l'actif du déménageur de Nice. La cour n'a fait que confirmer l'arrêt du peuple de France, la mort.
Mercredi 3 octobre 1945, Palais de Justice de Paris. Il est 15h30 lorsque Joseph Darnand, ancien secrétaire d'État et ancien chef de la milice, entre dans la grande salle d'audience de la Haute Cour de Justice. Les bancs réservés au public sont remplis de dizaines d'anonymes venus assister au procès de l'une des plus grandes figures du régime de Vichy. Vichy, c'est la période trouble, nauséabonde et honteuse de l'histoire récente du pays. Un épisode qui se caractérise par la mise en place d'un gouvernement à la politique fasciste, raciste et antisémite, collaborant avec l'occupant nazi. Vichy, sorte de république fantoche et illégitime aux yeux du général de Gaulle, chef de la France libre, alors en exil à Londres. Vichy et son gouvernement s'effondreront d'eux-mêmes suite au débarquement allié de juin 1944, puis lors de la libération de Paris quelques semaines plus tard. À l'automne 45, le général de Gaulle est au pouvoir et l'heure est désormais au règlement de comptes. C'est le début de ce qu'on va appeler l'épuration.
Voici Darnand, le tueur, l'homme de la milice. L'assassin des patriotes est là, timide comme un garçon boucher qui se sent les mains rouges. Il s'asseyait à la table des ministres, auprès du maréchal Pétain qui n'ignorait rien de lui, ni son accord avec Hitler, ni son activité criminelle.
C'est donc dans ce contexte que le 3 octobre 1945, l'inculpé Joseph Darnand va s'asseoir sur son fauteuil dans la salle d'audience de la Haute Cour de Justice, escorté par plusieurs gardes armés. À l'endroit précis, là où quelques semaines plus tôt a pris place son mentor, le maréchal Pétain, jugé pour complot contre la sûreté de l'État et intelligence avec l'ennemi. Âgé de 89 ans, il a été condamné à mort, peine commuée en emprisonnement à vie. Son titre de maréchal et ses décorations militaires lui ont été retirés. Aujourd'hui, avec Darnand, le tribunal juge un pétainiste convaincu et parmi les figures les plus violentes de la France vichyste. Darnand, ce même individu qui, il y a à peine un an encore, faisait trembler résistants, maquisards, communistes, juifs et tous ceux qui avaient le malheur de croiser sa route. À l'image de ce discours qu'il prononçait face à ses hommes de la milice 2 ans plus tôt, en 1944, et dans lequel il les incitait à continuer à se battre jusqu'au bout contre ce que lui et sa clique appelaient les ennemis de l'intérieur.
Ceux qui nous connaissent savent que nous ne ferons jamais de vaines menaces. Le moment venu, nous n'oublierons personne. Partisans de l'ancien régime, juifs, francs-maçons, communistes, égoïstes possesseurs de livres et de dollars, super-patriotes revanchards, et enfin gogos et plantouflards égarés, quel que soit leur nombre, ne représentent pas la France. Nous n'abandonnerons jamais l'action que nous voulons conduire jusqu'à la victoire finale. Mais nous répétons aujourd'hui que la révolution intérieure reste le but de notre ardente volonté.
Désormais, à la fin de la guerre et juste après, Darmon et ses miliciens ne font plus peur à grand monde. Dans l'opinion publique, le nom de Darmon ne suscite plus que haine et dégoût, à l'exception peut-être, et certainement, des quelques milliers d'hommes qui ont servi sous ses ordres dans la milice, bras armés du régime de Vichy. Dans la salle du palais de justice de Paris, la caméra des actualités françaises filme le visage de Darmon. Cheveux grisonnants balayés en arrière, fines moustaches, légion d'honneur encore accrochée à la boutonnière. Il est le visage de la haine qui fait face au visage inquisiteur de la haute cour. Meneur d'hommes et donneur d'ordre. Voilà comment on peut résumer la vie de l'inculpé Joseph Darmon. Un individu contre lequel le dossier d'accusation regorge de documents sur l'implication de Vichy dans des actions criminelles ou actes de connivence avec l'Allemagne nazie. Acteur zélé de la chasse aux juifs, adepte des coups bas, des coups de poing et des coups tordus, les affaires qui incriminent Darmon et sa milice ne manquent pas, comme le rappelle l'historien Michel Vinocq sur France Inter.
Son armée, la Frangarde, s'est battue contre les résistants. Et les miliciens procèdent à un certain nombre d'assassinats politiques en 1943 et en 1944. Ce sont des hommes de la milice qui tuent Victor Bache et sa femme, qui tuent l'ancien ministre Jean Zay dans sa prison, Georges Mandel, ou encore le maire de Montluçon, Marx Dormoy.
Le dossier d'accusation contre Darmon a beau être précis, l'instruction, elle, a été bâclée. De sorte qu'il reste des ambiguïtés sur la manière dont Darmon aurait fomenté ou donné l'ordre de tel ou tel assassinat. Mais l'accusé a bel et bien du sang sur les mains. Des centaines de meurtres pour lesquels, comme l'écrit l'avocat général, loin de réfréner ses troupes, il n'a eu de cesse dans ses discours de les exciter. Une sorte de carte blanche donnée par un chef pour inciter ses hommes à passer à l'action. Une chose est certaine, Joseph Darmon connaît déjà l'issue de son procès, la mort. D'ici quelques jours, les hommes qui lui feront face seront les soldats du peloton d'exécution, seuls habilités à exécuter l'œuvre de la justice en ces temps troublés de l'après-guerre, où de nombreux Français, remplis par un désir de vengeance rapide, tentent de l'appliquer eux-mêmes. Les cas de bastonnade, lynchage public ou de femmes tondues sont devenus des scènes banales qui ne choquent plus grand monde. Et Darmon figure en haut de la liste que les anciens résistants aimeraient voir disparaître.
Monsieur François de Menton, ministre de la Justice, vous parle.
Au lendemain de la libération, il n'était pas de tâche plus urgente et plus importante que le châtiment des traîtres et des collaborateurs.
La France de l'automne 45 est celle du temps des pénuries, du deuil et du retour des camps. C'est aussi le temps de la revanche pour tous les Français victimes de l'occupation et de Vichy. Alors, pour refermer le spectre des années noires, période parmi les plus douloureuses de son histoire, la France a besoin de juger et de faire des exemples. Robert Brasillach, par exemple, sera parmi les premiers à expérimenter cette justice expéditive, où en un après-midi, on peut juger et envoyer quelqu'un qui, en juin 1940, a fait le mauvais choix. Et il faut dire que les dossiers sont souvent très lourds, accablants. À l'Élysée, le général de Gaulle entend les cris et les colères. Dans son discours d'Évreux, le chef du gouvernement provisoire de la République française prône l'indulgence et la modération, car il faut bien remettre le pays sur les rails. Mais en coulisses, il sait qu'au nom de la raison d'État, rien ne peut ni ne doit empêcher la justice de faire fusiller les traîtres, tous ceux qui ont cédé aux sirènes du nazisme et qui se sont livrés ou qui ont aidé, d'une manière ou d'une autre, à commettre des crimes abominables durant l'occupation. Joseph Darnand, considéré comme l'un des pires traîtres et l'un des pires collaborateurs, doit donc payer. Son nom s'inscrit sur la liste des victimes de l'épuration. Une période trouble, dont il faut toutefois nuancer les chiffres donnés concernant les exécutions. Comme le rappelle l'historien Michel Vinocq au micro de France Inter en 1984.
Le bilan de l'épuration a été un sujet de controverse. On a pu dire que l'épuration a fait 100 000 victimes. En fait, deux enquêtes officielles menées, l'une par les renseignements généraux et l'autre par la gendarmerie en 1946, aboutissent à peu près aux mêmes conclusions, à savoir un chiffre de 10 000 victimes. Il y a eu environ 9 000 exécutions sommaires, dont les trois quarts ont eu lieu soit avant le débarquement, soit pendant la période des combats. Le dernier quart étant le fait de vengeurs s'indignant des lenteurs de la justice officielle. D'autre part, on a recensé 767 exécutions légales qui ont eu lieu après le verdict des cours de justice.
Le procès pour acte de collaboration de Joseph Darnand s'ouvre donc le 3 octobre 1945. Il ne durera que quelques heures. À travers l'évocation de sa vie et de sa carrière, comment cet homme, soldat multidécoré lors de la Grande Guerre pour ses états de service exceptionnels, son courage, son sens du devoir, comment cet homme est-il devenu, à partir de 1940, le promoteur d'idées fascistes, en opposition même avec les valeurs pour lesquelles il s'était battu et avait mis sa vie en jeu? Alors, était-il un simple suiveur, comme il va le prétendre, ou était-il un acteur majeur de sa trahison française? C'est dans la région de Bourg-en-Bresse, non loin de Lyon, que s'écrivent en 1897 les premières lignes de la vie de Joseph Darnand. Originaire d'une famille nombreuse, modeste et rurale, il connaît une jeunesse tranquille. À l'école, il est un élève discret, sérieux. À l'extérieur, il n'est ni un chef de bande, ni un agitateur. Non, l'enfance de cet individu nous apprend toutefois un élément important. Sa famille est catholique, pratiquante, et l'école privée que le jeune Joseph fréquente cultive une méfiance à l'égard de la République. La loi de 1905, celle de la séparation des églises et de l'État, éveille un sentiment de persécution chez les catholiques. Joseph Darnand quitte l'école à 14 ans et part travailler en ville. Trois ans plus tard, en 1914, la France entre en guerre contre l'Allemagne. Il veut s'engager, mais il est refoulé, trop jeune. Un échec vécu comme une humiliation. Finalement mobilisé en 1916, à l'âge de 19 ans, il part combattre l'envahisseur. Darnand n'aime pas la République, mais il aime la France. Un pays pour lequel il n'hésite pas à mettre sa vie en jeu lors des combats, comme l'écrira plus tard l'historien Éric Alary.
Joseph Darnand n'est pas homme à attendre que l'assaut soit donné. Creuser des tranchées et des abris, les renforcer par des planches, installer des fils de fer barbelés, vivre dans la crasse avec les rats et les poules, l'indispose fortement. Mais comme ses camarades, il apprend à survivre dans cet univers sans horizon. Finalement, le froid et la boue, il les accepte, mais dans l'action. Continuer d'assister à la mort de ses compagnons sous les rafales des mitrailleuses allemandes n'est pas possible. Très courageux, il estime devoir faire quelque chose de plus utile pour les aider, ainsi que pour sauver la cause nationale.
Dans cet univers apocalyptique du champ de bataille, où le jour et la nuit finissent par se confondre dans les détonations et la fumée des explosions, Joseph Darnand endosse les habits d'un casse-cou. Sur le front, il est en première ligne. En 1917, la Première Guerre mondiale est désormais une guerre d'usure, une guerre dans l'impasse. Sergent dans le peloton des grenadiers d'élite, Darnand est toujours en première ligne. Pour sa bravoure et son courage, il reçoit la Croix de guerre, plus haute distinction remise à un soldat.
Baïonnette au canon ! Baïonnette au canon !
Baïonnette au canon !
Et au moment même où de nombreux combattants tentent de déserter, lui continue ses actions héroïques sur le champ de bataille et accumule les citations militaires. Blessé à deux reprises à la jambe lors des combats, il est promu adjudant. Il est finalement démobilisé en 1921 lorsque la guerre prend fin sur le front des Balkans. À ses yeux, il est un héros et il mérite d'avoir sa place au sein de l'armée. À 24 ans, il veut devenir officier, appartenir à un corps. L'esprit de camaraderie l'anime, la défense de son pays l'obsède. mais il n'est qu'un petit provincial et ses capacités intellectuelles sont jugées trop faibles. Darnan est donc éconduit une nouvelle fois. De la guerre, il ne garde que ses médailles et une maigre pension d'invalidité. Comme l'explique l'historien Éric Alary, la décennie des années 20 va être pour lui une période d'ennui, mais aussi d'expérimentation.
De 1919 au début des années 1930, Joseph Darnan se morfond parfois dans l'inaction et la vie banale d'un mari et d'un père de famille, désormais engagé dans une vie routinière. Trop routinière. Il s'installe à Nice, où il mène à bien des activités professionnelles dans le domaine des transports. Surtout, ce sont des années de camaraderie intense avec des anciens combattants. C'est le temps des rencontres décisives et durables. Darnan semble passer plus de temps avec ses employés et ses amis qu'avec son épouse. Par ailleurs, il est toujours en mouvement et cessé à l'engagement politique, à l'Action française, comme des milliers d'autres anciens combattants. Mais ce n'est pas le front, et les déceptions s'accumulent. Il navigue alors entre les divers mouvements d'extrême droite.
Il sort de la guerre comme un héros, mais les années vont passer progressivement. Le patriote Darnan, en effet, va prendre un virage de plus en plus à droite de l'échiquier politique et flirter avec le milieu criminel de l'entre-deux-guerres.
Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner, est-ce qu'on retombera sur nos pieds? Du puits où il est enfermé, quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui, on guette la lumière, la douce passerelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire. Devant lui se tient un miroir. Son reflet de blanc est noir. Tu ne sais plus dire si tu dors. Ta vie est devenue un décor que tu laisses comme on offre son corps pour quelques billets. Et encore, mais c'est toi qui portes le drapeau. Regarde-le comme il est beau. Là, tout en tête du cortège, ton enfant qui se soulève. Tu portes pour lui la mémoire.
Aujourd'hui, Joseph Darnan.
Affaires sensibles sur France Inter.
En 1916, on l'a dit, Darnan était un soldat au service de son pays, un soldat exemplaire. Au début des années 30, il est un militant politique. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'homme n'est pas un idéologue. Il agit avant tout au service de lui-même et de ses ambitions. Il aime la violence et le combat et ne fait aucune différence entre affronter ses opposants politiques et les membres de son propre camp. Le chef de l'Action française, Charles Maurras, en est le témoin. Darnan, homme d'action et de coups d'éclat, s'exaspère devant la mollesse et l'indécision des Maurrassiens. Cette situation donne lieu à une scène surréaliste, où Darnan insulte les chefs de l'Action française en les traitant de vieux cons. Il rejoint alors les croix de feu du colonel Delaroque, autre mouvement souverainiste et nationaliste. Il emmène avec lui une centaine d'anciens combattants qui déjà le suivent comme des soldats suivraient leur chef. Il faut dire que Darnan aime être en bande. Il aime rassembler et déjà fomenter des coups, des complots ou des actions sanglantes. Les manifestations violentes du 6 février 1934, jour où les institutions vacillent, sont un révélateur pour lui. La France est dans une impasse politique. La République doit être renversée. À la tête d'un réseau puissant dans le sud-est de la France, il va participer aux actions clandestines de la Cagoule, organisation militaire terroriste fondée par des dissidents de l'Action française qui veulent renverser la République justement, la troisième en l'occurrence. Opération commando contre les communistes, trafic d'armes, Darnan fait ses classes et apprend comment gérer un réseau, ses membres et les opérations.
Et ils ont frappé. Le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre.
Pour Darnan, la guerre est une bénédiction. L'occasion rêvée de faire parler la poudre et de repartir au combat contre cet ennemi qu'il déteste pour l'avoir combattu dans les tranchées, l'Allemagne. Membre des corps francs, unité envoyée en première ligne pour repousser l'envahisseur, Darnan se bat sans relâche. Mais sa ténacité ne peut rien contre le rouleau compresseur de la Wehrmacht qui écrase l'armée française et perfore la ligne Maginot. Le 21 mars 1940, en pleine période de la drôle de guerre, la photo de Darnan fait la une de match. Engoncé dans son uniforme de chasseur alpin, Darnan le patriote vient de ramener le corps d'un camarade mort au combat. Avec l'armistice de juin 40, la mise en place de la ligne de démarcation, la création de la zone libre et de la zone occupée, Darnan doit choisir son camp. Il va alors choisir la France. La France du maréchal Pétain, comme l'explique Pascal Horry.
Joseph Darnan, c'est un patriote indomptable. Et à l'été 1940, il semble bien qu'il hésite sérieusement entre poursuivre la lutte contre les Allemands et se rallier à Vichy. Pétain était le vainqueur de Verdun. Et Joseph Darnan a donc choisi Vichy. Seulement, et c'est là la grande responsabilité, à mon avis, de Pétain, en termes de responsabilité, Pétain était le vainqueur de Verdun, et pour beaucoup, il ne pouvait pas être soupçonnable d'une quelconque germanophilie. Et Joseph Darnan a donc choisi Vichy plutôt que Londres. 4 ans plus tard, ou même un peu moins, il prête serment à Hitler et il est en costume de Waffen-SS.
Darnan au service de Pétain, au service de Vichy et donc au service de l'Allemagne nazie. De soldat glorieux, il s'apprête à devenir un criminel zélé et à collaborer avec l'ennemi, ce même ennemi qu'il a pourtant combattu sans relâche au péril de sa vie. 4 ans plus tard, au début de l'année 44, sur les ondes de Radio Londres, la France libre s'adresse à la France occupée. Outre les messages codés, les bulletins d'information contiennent aussi des revendications politiques et des annonces. Et comme vous allez l'entendre, le nom de Joseph Darnan est cité, accolé à celui d'Heinrich Himmler, le tout-puissant chef de la SS.
Allô, allô, maquis de la Haute-Savoie. Maquis de la Haute-Savoie. Écoutez bien, on n'a que des renseignements contradictoires et fort vagues sur la situation en Haute-Savoie, où Darnan, le lieutenant de Himmler, a ordonné de traquer les patriotes français cachés dans les montagnes. Dans son numéro de samedi, la Zenka d'Agbladet qualifiait la situation de très tendue, sans mention de combat. On signale de nombreuses arrestations dans la région d'Annecy. Ici, Londres, notre 9e bulletin d'information est terminé. Honneur et patrie.
Après presque 4 années aux côtés du régime de Vichy, Joseph Darnan s'est métamorphosé. Lui qui combattait les Allemands en 14-18, puis qui avait tenté de les repousser jusqu'en juin 40, et bien ce même Darnan est devenu l'un des rouages de la politique de Vichy à la botte des nazis. Lors de son procès, il expliquera qu'il ne croyait guère possible de pouvoir faire quelque chose avec 400 ou 500 hommes réfugiés à Londres. Ça c'est pour De Gaulle. Il affirmera aussi qu'avoir fait le choix de Pétain, vainqueur de Verdun, c'était pour lui suivre un grand soldat et faire le choix de la légalité. En réalité, Darnan est davantage un homme d'action et un opportuniste surtout. S'il choisit Vichy, c'est qu'il y trouve son compte. Lui qui déteste la République, ses institutions, ses représentants, il a enfin l'occasion de pouvoir agir et servir la France, sa France. Catholique, antisémite, xénophobe, prêt à renier ses valeurs de liberté, égalité et de fraternité en échange d'avantages de toutes sortes. Darnan au service de Vichy, c'est la création et l'organisation de la sécurité du régime. Agissant un chef de bande, il joue de ses réseaux et de ses alliances pour constituer un groupe d'action à sa mesure, capable de réprimer, le plus souvent par le sang, toute forme d'opposition au maréchal Pétain. Nommé au début de l'année 44 secrétaire général au maintien de l'ordre, il est ensuite promu secrétaire d'État à l'intérieur, ministre vichyste de l'ordre et de la sécurité. Mais le grand fait d'armes de Darnan remonte à 1942, lorsqu'il fonde le service d'ordre légionnaire, le SOL, dans lequel sont embrigadés d'anciens soldats, beaucoup de revanchards et bien sûr des membres des réseaux criminels et mafieux. Des individus aux profils différents que l'ancien résistant Raymond Braque n'hésite pas à qualifier de bande de voyous.
Un petit nombre est fanatique, des fanatisés politiques d'extrême droite, mais la grande majorité, ce sont des voyous qui poursuivent des objectifs, en même temps des objectifs propres à la police allemande et en même temps des objectifs personnels. Ils cherchent des avantages matériels et ils prennent à toute occasion les avantages matériels. Ils prennent des logements, ils prennent des voitures, ils prennent des bijoux, ils prennent tout ce qu'ils peuvent trouver.
Bras armé de la Révolution nationale prônée par le maréchal Pétain, le service d'ordre légionnaire se livre à des actes de violence sur toute la zone occupée. Tabassage, exécution, pillage. Toute personne suspectée d'être communiste, maquisard, résistant aux juifs, devient une cible. Darnan est-il au courant des opérations de vendetta commises par ces hommes ? Probablement. Les autorise-t-il à agir de la sorte ou même les encourage-t-il ? Il n'existe aucun ordre signé de sa main, mais on peut légitimement penser qu'il ne réprouve pas les actions menées par les légionnaires. Et pour cause. Dans ce monde absurde et aliéné que représente alors Vichy, Darnan est lancé dans une guerre des chefs pour devenir le meilleur serviteur du régime. La mission de redressement national lancée par le maréchal Pétain exige une abdication des valeurs, des convictions et de la pensée. Un rôle taillé sur mesure pour Darnan, qui ne souffre d'aucun complexe en matière d'idéologie et pour qui seul compte l'action. Dans l'opinion, le service d'ordre légionnaire est bientôt discrédité. Darnan, lui, considère ses membres comme exemplaires, serviteurs fidèles de la Révolution nationale de Pétain. Comme ici, dans ce discours de 1942.
Il y a aujourd'hui moins d'une année, SOL, que vous vous êtes rassemblés à mon appel et à celui des camarades qui sont maintenant vos chefs. Dans la discipline, mais avec un esprit de camaraderie inégalé par ailleurs, nous avons mis sur pied une troupe révolutionnaire, unie dans sa foi et dans son ardeur, instruite dans sa doctrine, forte par sa masse homogène. Nous nous sommes toujours donné comme raison d'être et comme finalité l'accomplissement d'une révolution nationale qui rendent notre pays vaincu et faible à son glorieux destin de grande nation.
En janvier 1943, Darnan participe à la création de la milice, cette organisation paramilitaire armée anticommuniste, anticapitaliste et surtout antisémite. Preuve à l'appui dans le serment que les miliciens doivent prêter. Il est en effet écrit, noir sur blanc, qu'ils doivent protéger la France de la lèpre juive, je cite, bien sûr. Dans ses discours, Darnan fait aussi référence à la juiverie à abattre. En 1944, les miliciens défilent sur les Champs-Élysées et sont accueillis dans la cour d'honneur des Invalides. Ils incarnent alors la fierté de l'État français et du gouvernement de Pierre Laval.
Miliciens, à vous !
Pour Darnan, la milice est un organe à sa mesure, celui qui va lui permettre d'accomplir ses crimes et d'assouvir sa haine et sa violence. Rafles, tortures, exécutions sommaires, la milice se livre à une série de guet-apens contre les anciens députés et ministres, dont les assassinats de Jean Zay et de Georges Mandel. État dans l'État, force d'action autonome et parallèle à l'armée de Vichy, la milice s'inspire par certains côtés de l'ASS du régime nazi. Le bras tendu en avant de ces hommes, en signe de salut, est très similaire au salut hitlérien. Et puis, cette engeance possède ses groupes d'action et bénéficie d'un flou juridique pour agir au nom de l'État français, pour le compte de Darnan lui-même. Mais comme l'expliquera l'historien Michel Vinocq, la milice n'est pas qu'une force militaire.
Ce n'était pas seulement une force militaire. La milice avait ses émissions de radio, son journal qui s'intitulait « Combat », lui aussi, mais cette fois avec un S. La milice tenait des meetings. Elle comptait environ 15 000 militants. Souvent issus des milieux populaires, chômeurs, qui se sont laissés entraîner, qui sont dépassés par le sens du drame qu'ils vivent.
Et en août 43, à l'ambassade d'Allemagne à Paris, Darnan franchit une autre ligne rouge, celle de l'allégeance direct à Adolf Hitler, comme le raconte l'historien Jean-Pierre Azéma.
Joseph Darnan, en août 1943, prête serment au Führer et devient Waffen-SS. La milice va devenir non seulement le fer de lance contre l'anti-France et notamment contre les résistants et également contre les juifs et les auxiliaires de ceux que nous appelons la Gestapo, c'est-à-dire des services de sécurité du Reich. Au fil des mois, cette connivence ne va cesser de se renforcer tout au long de l'année 44.
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur...
Le débarquement du 6 juin 1944, puis la libération de Paris quelques semaines plus tard, en août, marque la fin du régime de Vichy. Chasseurs, les puissants chefs d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Les collabos avaient tout, pouvoir, argent, réseau, désormais, ils sont gibier. Comme beaucoup, Darnan est contraint de prendre la fuite vers l'Est et de rejoindre l'Allemagne à Sigmaringen, où Pétain et les principaux chefs de la collaboration ont été emmenés par les Allemands. Crépuscule des odieux. Dans un dernier baroud, mais aussi pour sauver son honneur et surtout échapper à la justice, Darnan prend le chemin de l'Italie avec plusieurs de ses miliciens pour se battre contre les communistes, toujours et encore. Avec eux, une partie du trésor de guerre que la milice que Darnan souhaite cacher quelque part. Il est finalement arrêté en juin 45 et renvoyé en France. Le 3 octobre a lieu son procès à la Haute Cour de Justice de Paris. Mais à travers Darnan, c'est aussi le procès de la milice et de ses actes qui est instruit. Durant les débats, l'accusé, Rosette de la Légion d'honneur accrochée à la boutonnière, Darnan assume tout ce qu'il a fait au nom de Vichy. Il affirme aussi qu'il est un homme d'honneur et pas un criminel, et qu'il n'est pour rien dans les excès et les violences qui ont émaillé la période de l'occupation. Darnan n'a fait que suivre son chef. Le maréchal était le donneur d'ordre, et Darnan un simple exécutant. On connaît la musique. Et c'est celle que joue l'avocat de Darnan. Mais cela ne convainc pas. 20 minutes de délibération vont suffire pour condamner l'accusé à la peine de mort. Et le général de Gaulle refuse la grâce. Au matin du 10 octobre 1945, Joseph Darnan est extrait de sa cellule de la prison de Fresnes et emmené au fort de Châtillon. Là, au moment d'être attaché au poteau, face au peloton d'exécution, il se met à chanter le chant des cohortes. Hymne du service d'ordre légionnaire et de la milice. Quelques instants plus tard, le bruit sec de 12 balles de fusil traverse la cour du fort de Châtillon. Darnan s'effondre. Et comme le veut la règle, un soldat l'achève de 2 balles dans la tête. Joseph Darnan meurt à l'âge de 48 ans. Il a connu de son vivant les médailles, la victoire et la gloire. À sa mort, il connaîtra l'opprobre de l'histoire. Aujourd'hui, Joseph Darnan, un collabo à l'heure du châtiment, on en parle avec notre invité, l'historien Éric Allary. Bonjour.
Bonjour, Fabrice Drouel.
On connaît votre voix puisqu'on l'a entendu 4 fois dans ce récit, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la vie des Français sous l'occupation. Votre dernier livre, Joseph Darnan, de la gloire à l'opprobre, est paru aux éditions Perrin le 12 octobre dernier. La question de savoir si Darnan a un logiciel idéologique d'extrême droite solide quand il verse dans la collaboration, ou est-il amer que son héroïsme ne soit pas assez reconnu, célébré par la République? Je fais référence à l'héroïsme de la Première Guerre, parce que dans votre livre, vous décrivez un personnage brut au sens physique et mental, une sorte de bagarreur sans grand esprit. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Darnan en veut à tout le monde, aux juifs, aux allemands, aux communistes, aux capitalistes, et que c'est peut-être là la première raison de son engagement.
Oui, alors, il y a tout ceci se greffe progressivement, évidemment. Il a eu plusieurs chocs dans sa vie. Bon, il est d'origine, vous l'avez dit, provinciale, catholique, par sa mère, très catholique, un père plutôt royaliste. Donc la République lagueuse n'est pas très bien vue dans la famille. Cela dit, il reste avant tout un patriote, pas républicain, mais un patriote. Et il aura plusieurs chocs effectivement dans sa vie. En 1914 s'engager, il est trop jeune. Et puis ensuite, donc après des actes héroïques pendant la Première Guerre mondiale, on lui refuse l'école d'officier. Là, je crois qu'il y a une rupture réellement. Il ne s'en remettra jamais. Pour l'acte héroïque, Ça se joue un 14 juillet 1918, puisque Darnand va aller nettoyer les tranchées allemandes du côté de la montagne de Reims, et il va réussir à capturer plusieurs dizaines de soldats allemands, et surtout les plans d'une attaque qui doit être lancée par Ludendorff dans les jours prochains. Et une fois que l'état-major français a su cela, cela a permis de concentrer les forces françaises au bon endroit. À la surprise des Allemands, les Français, les Alliés étaient prêts, ce qui a peut-être, et très certainement même, aux yeux de Pétain, fait gagner quelques semaines de conflit aux Français. Ce qui le rend immédiatement héroïque aux yeux de ses camarades.
Bien sûr.
Et en même temps, aux yeux de ses officiers, comme un être absolument de confiance. Donc il va être envoyé ensuite pour des missions qu'on appelle de nettoyeur de tranchées, un peu comme le capitaine Conan en Orient. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est un grand chef pour ses hommes. Alors, à l'époque, si vous voulez, c'est un peu le rattrapage. Lui, le fils... pas de peu, mais de classe moyenne provinciale, celui qui a vu ses parents divorcer. Très rare à l'époque, surtout dans une famille catholique.
D'où un traumatisme.
D'où un traumatisme. Celui qui n'a pas pu continuer ses études au lycée, il avait commencé les études au lycée parce que ses parents n'avaient pas assez d'argent, d'un seul coup est reconnu. Et il est reconnu comme un officier, qu'il n'est pas d'ailleurs, puisqu'il reçoit la croix de guerre, ce qui est pour un soldat, un sous-officier, vous l'avez dit, la plus haute distinction. Et il est cité par le maréchal Pétain. C'est quand même, et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il devient un fan absolu, si vous me permettez le terme, de Pétain, d'autant plus que dans son histoire, il quittera la Franche-Comté pour aller vers Nice et monter une entreprise de transport, je parle ici de Darnand, et la résidence secondaire des Pétains était à Villeneuve-Loubet,
à côté
de Nice,
ça touche Nice quasiment.
Voilà, où il a été invité. Donc, il est fait héros dans la presse des anciens combattants, il est assez vite oublié, et ceci a du mal à l'accepter, comme vous le pointez très justement.
D'accord, mais pourquoi ce glissement vers l'extrême droite, les maurrassiens, la cagoule, enfin tout ce qu'on fait de pire en termes de représentation politique d'extrême droite à l'époque? Parce qu'il n'aime pas, il déteste l'Allemagne, il est profondément... patriote, et il se met aux côtés de gens qui soutiennent un régime qui est celui d'Hitler en Allemagne dès 1933. Donc il y a un paradoxe.
C'est vrai, comme vous le dites, il va à toutes les marmites de l'extrême droite, l'Action française, les Croix de Feu, le Parti populaire français de Doriot. Il a besoin d'action. Il est entraîné très certainement aussi par tous ses amis, ceux de Nice, mais il ne faut pas non plus le dédouaner d'être lui-même. Est capable de comprendre ce qui se passe, évidemment. Beaucoup d'anciens combattants sont maurrassiens. Beaucoup de maurrassiens deviendront de grands résistants, tandis que d'autres deviendront de grands collaborateurs. C'est vrai que le début de la Seconde Guerre mondiale agit un peu comme une machine à laver, en quelque sorte. Mais Darnand, se retrouvant à la frontière avec l'Italie, va aussi trafiquer des armes. Il veut montrer toujours à des chefs et à ses chefs qu'il est capable de faire toujours plus. Il a besoin du coup de poing, il a besoin de l'action physique, et en même temps, on lui fait croire que la République est peut-être... à anéantir et qu'elle sera anéantie très rapidement. D'ailleurs, il va être pris dans le complot de la cagoule. En 1938, il est arrêté par la police, il est emprisonné. Certains jeunes officiers qui deviendront ses bras droits pendant la Seconde Guerre mondiale sous Vichy lui rendront visite en prison. Et il organise des coups de poing contre les communistes à Nice. Et c'est très important parce qu'il forge sa réputation à Nice. À Nice, il va rencontrer des anciens combattants qui sont tous à l'extrême droite. Il y a un terreau qui est favorable, mais ce sont tous des anciens combattants. C'est-à-dire que le monde de Darnand, c'est un monde d'anciens combattants. Peu de place pour la vie de famille, il a le temps d'avoir deux garçons, il y en a un qui meurt en bas âge, un qui survit, et puis de temps en temps, il rejoint tout de même son épouse Antoinette.
Alors, quelle différence avec deux autres personnages très connus pour les mêmes raisons, Philippe Henriot et Doriot, par exemple?
La différence, c'est que lui, ce n'est pas un intellectuel, au sens premier du terme.
C'est une première différence, oui.
C'est une très grande différence, c'est-à-dire que lui, il n'a pas réfléchi, il ne réfléchit pas. Il intègre ce qu'il entend, il aime beaucoup être avec des gens beaucoup plus instruits que lui, car il le dit à plusieurs reprises, il dit qu'il s'en inspire pour lui-même convaincre ses propres soldats. Mais il est toujours chef de quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui sait être opportuniste, pragmatique, c'est un primaire, mais pas un idiot fini.
Oui.
Et il sait, à chaque fois, reconnaître l'endroit ou l'interstice où il peut se lever, se loger.
Et pour le chef de gouvernement, Laval, et pour Pétain, c'est plutôt utile, des gens comme ça.
Oui, parce que c'est un peu comme une partie de ping-pong entre deux êtres qui ne se détestent, c'est-à-dire Pétain et Laval, avec un Bousquet qui fait l'affaire pour la Gestapo et la SS à partir du printemps 1942, mais Bousquet ne fait plus l'affaire au bout d'un certain moment, et Otto Abetz, qui est le ministre du Reich, le ministre des Affaires étrangères du Reich, à ce moment-là, a bien repéré ce Darnan depuis très longtemps, et Laval trouve que ce Darnan n'est pas très intelligent, mais en fait, il va le découvrir plus intelligent qu'il ne pensait, et il va même l'instrumentaliser, il va utiliser et même se jouer de Laval.
Éric Alary, quelque chose de... d'étonnant. Il aurait pu avoir le choix, finalement, je crois que c'est en 1944, Darnan aurait pu faire le choix de la résistance à leur tard, hein. Ça paraît complètement bizarre et surréaliste, pourtant c'est vrai, il y a eu quelque chose.
Alors, c'est plutôt en juin 1943, déjà au début de la guerre, un chef militaire lui avait proposé de rentrer dans la résistance, Groussard, et même l'un de ses meilleurs amis, le fameux Dominicain, le seul témoin à décharge pour lui lors de son procès, Bruckmaster, dit Bruck, qui avait combattu avec lui, il lui avait proposé de rentrer dans la résistance. Bon, bref, vous avez décrit parfaitement le parcours de Darnan, et voilà que, le 4 juin 1943, Jean Moulin informe Londres, par télégramme, de la possibilité que Darnan et François Valentin, qui avait été le chef de la Ligue française des combattants qui précède la création du SOL, service d'ordre légionnaire, possibilité qu'ils soient intéressés par un ralliement aux forces françaises combattantes. Je mets 10 points d'exclamation, et ces points d'exclamation, à Londres, ils les ont vus, évidemment. Ouais. Il y a eu des discussions à Londres, parce que c'est 15, 20, 1000, peut-être 30 000 hommes avec quelques armes. Pas trop, mais quelques armes. Et à ce moment-là, Moulin fait son travail d'administrateur de la résistance, si on peut dire, de préfet. Et à ce moment-là, il reçoit cette nouvelle, cette information de la part de ses réseaux à lui en France. Et c'est vraisemblablement Groussard qui avait déjà tenté d'amener Darnan vers la résistance en 1940, qui lui a reproposé. Bon, refus évidemment de Londres, et le 9 juin 1943, donc 5 jours après, Darnan fait un discours à Paris pour glorifier l'action des Sols contre les Alliés. Est-il au courant du refus de la France combattante d'accepter son ralliement? Y croyait-il lui-même? On n'en sait rien. En tout cas, le jour où le télégramme arrive à Londres, lui, plus que jamais, dénonce la lèpre juive, il faut abattre les alliés, il est devenu germanophile alors qu'il était germanophobe, et il prête serment à Hitler, entre dans la Waffen-SS et devient illico presto officier, ce que lui avait refusé l'armée française à l'issue de la Grande Guerre, ce qui a été une profonde rupture pour lui.
Alors, on parlait de dossier accablant, le sien c'est quelque chose. Quand il entre au palais de justice, en 1945, est-ce que déjà tout le prétoire sait qu'il va être condamné à mort, quoi, qu'il n'y aura aucun suspense.
Oui, parce que de toute façon, il y a 3 magistrats, c'est la haute cour qui va juger près de 106 personnes. 18 membres de gouvernement vont être condamnés à mort, 3 sont exécutés, dont Darnan, Laval et Fernand de Brinon. Et son sort est dangereux entendu. Il y a les 3 magistrats et 24 jurés qui sont des parlementaires qui étaient à Alger et qui ont été, dont beaucoup sont des résistants. Communistes, gaullistes, etc. Donc le sort est entendu. On ne peut pas dire que c'est une parodie de procès, puisqu'il y a une instruction tout de même. Il a 2 avocats. Il a 1 témoin à décharge, qui est le père Bruckmaster, mais bon, qui a du mal à le défendre, mais qui rappelle son parcours de héros. Lui va surtout défendre ce parcours de héros.
Il était une figure connue, le père Bruckmaster.
Le père Bruckmaster était un dominicain, une figure, puisqu'il était l'aumônier, on peut dire, des corps francs.
Ah, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il était connu.
Ils sont connus en 40, etc. Et c'est un ami dont l'amitié était indéfectible. Ouais. Et il va aller jusqu'au bout, puisqu'il est là autour du peloton d'exécution, Bruckmaster, et il ira jusqu'à vérifier que le cercueil dans le trou attier au carré des suppliciés. Il est le dernier témoin à avoir vu donc Darnan. Il demande même à Darnan s'il veut l'aide de Dieu. Bon, il dit oui, si vous voulez. Mais il avait rompu avec toutes ses valeurs, celles de sa jeunesse notamment.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épuration. Alors, je vous voyais prendre des notes concernant les chiffres de l'épuration sur lesquels, dans le récit, l'historien Michel Vinoc, je crois, revenait.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez parce que on en est où de l'épuration, de la vérité, notamment de la vérité par les chiffres?
Il y a 2 types d'épuration, l'épuration dite sauvage, mais nous on préfère les historiens parler d'épuration extrajudiciaire, et l'épuration dite officielle, dont parlent Pascal Horry notamment et Michel Vinocq. deux types d'épurations qui ont eu lieu dans les autres pays d'Europe occupés par l'Allemagne. Bon. Et les cours de justice, à côté de la cour de la Haute Cour de justice qui juge Pétain, Laval, etc., il y a les cours de justice, les chambres civiques. Alors, les cours de justice vont fonctionner comme des cours d'assises. Il va y avoir près de 50 000 dossiers jugés et 7 037 peines de mort qui ont été prononcées, dont 791 exécutés, ce qui est peu.
Peu par rapport au nombre de condamnations.
Voilà.
Hein.
Et il faut aussi rappeler que beaucoup de peines de mort prononcées le sont par contumace.
Est-ce qu'on est avec Darnand face à un cas typique des grands procès ? Alors là, on est dans l'épuration, comme vous disiez, judiciaire. Il y a l'extrajudiciaire et judiciaire. Là, c'est vraiment typique, emblématique de ce que pouvaient être les grands procès de l'époque pour ces gens-là. Hein.
Oui, c'est les grands procès de l'époque. Il y a Laval. Alors, dans l'ordre chronologique, Pétain, Laval, et puis Darnand. Laval est exécuté quelques jours après Darnand. Il a tenté de prendre du cyanure, d'ailleurs, Laval, pour échapper au peloton d'exécution, mais ils vont le réveiller et il ira tant bien que mal jusqu'au poteau d'exécution. Mais effectivement, c'est parti des grands procès que les Français attendent. Et De Gaulle ne peut pas prononcer une commutation de la peine comme il l'a fait pour le maréchal Pétain. Pétain est condamné à mort, mais la peine est commuée immédiatement, par De Gaulle en peine de prison à vie. Il ne peut pas avec Darnand.
Ça, c'est pour Verdun, ça.
Voilà, c'est pour Verdun. Bien sûr. Et il ne peut pas pour Darnand, parce que Darnand a laissé la mort en 1944. C'est-à-dire que les Français ont le souvenir immédiat de la fin de la guerre. C'est surtout 1944 où il y a tant de meurtres, tant de crimes, avec tous ces miliciens et ces bérets. Et lui n'a rien fait pour les arrêter. Il les encourageait, même s'il ne signait pas d'ordre de tuer. Mmh. Il les encourageait. Et on est à quelques mois d'élections au suffrage universel. Et De Gaulle ne peut pas prendre un risque supplémentaire de ne pas condamner à mort ce qui est celui qui est un Français ordinaire qui est monté un peu trop haut aussi aux yeux de beaucoup de Français et qui reste l'exécutant, tout de même aux yeux de certains, mais tout de même le criminel.
Oui, quand même.
Le criminel, bien sûr.
Alors, justement, puisqu'on parle de De Gaulle, l'avocat Darnand va tenter d'obtenir la grâce. Et alors, vous avez... Donc, vous dites que politiquement, c'était impossible, humainement aussi d'ailleurs. Et je crois que vous avez retrouvé la lettre et la réponse du général. C'était un moment intéressant, ça.
Oui, c'est un moment intéressant parce que De Gaulle dit à l'avocat... Donc, d'abord, Darnand écrit à De Gaulle en disant « Je ne demande rien pour moi. Moi, je suis le chef, j'assume. Mais je demande à ce que mes miliciens soient épargnés et qu'ils trouvent une place dans cette France qui doit se battre contre le communisme. » Car Darnand, jusqu'au bout, a cru, comme certains grands chefs nazis comme Himmler et d'autres, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir encore être réutilisables par les alliés pour lutter contre les communistes. Bon.
C'était bon en Amérique du Sud, ça.
C'est ça. et en fait, De Gaulle fait dire à l'avocat, il ne répond pas directement à Darnand, mais il fait dire à l'avocat, qui répétera à Darnand, que même s'ils sont des frères d'armes, il y a que... Seuls ceux qui ont fait 14-18 peuvent comprendre ce que ça veut dire. Frères d'armes, aujourd'hui, ça peut choquer. De Gaulle le prend de frères d'armes, mais bien que frères d'armes, je ne peux pas vous gracier. C'est absolument impossible, vous avez trop de sang sur les mains.
Ben comme ça, c'est clair. Merci, Éric Alary. Je rappelle le livre, votre livre, le titre, Joseph Darnand, de la gloire à l'opprobre, donc paru aux éditions Perrin le 12 octobre dernier. Donc c'est un livre tout récent. Merci pour vos éclairages.
Merci, Fabrice.
Au revoir.